Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Mais que se passe-t-il dans la tête des collectionneurs? Qu'est-ce qui un jour pousse un individu comme Estelle Schmitt à réunir des gommes, des objets, à les accumuler avec frénésie pendant des années? Qu'elles soient constituées de simples timbres ou de gommes ou d'objets d'art très coûteux, eh bien les collections peuvent dire des choses très intéressantes de la relation entre l'objet et son collectionneur. Le Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau, qui aura lieu le week-end du 30 mai, a eu la bonne idée de proposer une série d'événements autour du thème de la collection. Et c'est l'occasion d'y consacrer notre tête au carré cet après-midi avec mes invités Jean-Pierre Changeux et Michel Lejoyeux. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Jean-Pierre Changeux, vous êtes neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France et à l'Institut Pasteur. Et vous êtes vous-même à la tête d'une collection de peintures du XVIIe et XVIIIe siècle que vous avez constituée pendant de très nombreuses années. Et vous serez présent à Fontainebleau pour parler du cerveau du collectionneur, ce qui nous intéresse fortement cet après-midi. Michel Lejoyeux, vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à Paris 7. Vous présidez la Société française d'alcoolologie et vous dirigez les services de psychiatrie et d'addictologie des hôpitaux Bichat Claude Bernard, et vous nous expliquerez ce que la collection peut révéler de notre psychologie et si le fait de collectionner peut devenir également pathologique. Vous avez publié entre autres Les secrets de nos comportements chez Plon, dans lequel vous abordez ces questions. Les auditeurs avec ou sans collectionnite aiguë nous rejoignent avec les messages et les témoignages sur franceinter.fr et sur la TAKEFI. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Est-ce que vous avez collectionné vous quelque chose, Axel, dans votre enfance ou même encore aujourd'hui d'ailleurs,
hein. Des cartes à jouer, moi j'ai collectionné des cartes à jouer.
Bien, de quoi est-ce qu'on va parler tout à l'heure dans le hashtag l'attaque, hein?
Tout à l'heure on essaye une application pour envoyer des odeurs par SMS, ça s'appelle Ophone. Vous verrez que plus un papa s'occupe de ses enfants et plus son cerveau se papapoulise. Et on fera quelques recherches santé sur Wikipédia pour voir si les informations y sont fiables.
Voilà pour le sommaire de cette émission qui est réalisée par Violaine Ballet et qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Anne-Cécile Perrin et Antoine Bonvoisin. You know Moreover avec la voix de Janis Joplin sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission.
Vous écoutez La Tête au Carré. Au carré. Jusqu'à 15h sur France Inter.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est pour mon père, il fait collection.
Elle est belle, hein ? 18e, ça va sûrement lui faire plaisir.
Ton père fait collection de louches ?
Il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite.
Mais c'est intéressant, ça.
Bonjour.
Et il aime partager sa passion ? Enfin, je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges ?
Non, Pierre.
Il vient à Paris de temps en temps ?
Non, Pierre, pas papa.
Quoi, pas papa ? Je trouve la passion de ton père très originale et...
Et tu veux l'amener mercredi soir ?
Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Tu me vois invitant le père de mon meilleur ami à un dîner de con ?
Oui.
Tu me prends vraiment pour un salaud, hein ?
Oui.
Non, je plaisantais, bien sûr.
Extrait du dîner de con de Francis Weber avec Thierry Lhermitte. Que se passe-t-il dans le cerveau des collectionneurs ? C'est le thème de notre émission cet après-midi avec mes invités, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux, et vous nous rejoignez avec toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur la TACFI. Le 30, 31 mai et 1er juin aura donc lieu à Fontainebleau le Festival de l'Histoire de l'Art qui a pour thème collectionner, également la Suisse d'ailleurs, qui sera le pays invité de ce rendez-vous. Et Jean-Pierre Changeux, vous serez présent pour y parler notamment du cerveau, du collectionneur. Et là, c'est vrai que vous allez intervenir à la fois en tant que neurologue, neurobiologiste et vous-même collectionneur. Qu'est-ce que vous avez collectionné, Jean-Pierre Changeux ?
Je collectionne toujours des tableaux du 17e et 18e siècle.
C'est pas les louches, hein, vous, c'est
non,
bien
pas
les tableaux
du, tout.
Du 18e.
C'est les tableaux et depuis plusieurs dizaines d'années. C'est une recherche constante. Qui me passionne.
Ouais. Quand ça a commencé ? Dans quel contexte exactement ? Comment un jour vous avez décidé de faire cette collection ?
D'abord, j'étais collectionneur d'insectes quand j'étais adolescent.
Ah oui.
Et j'ai aussi collectionné des plantes, j'ai fait des herbiers.
Ouais.
Et puis, quand je me suis orienté vers la recherche scientifique, j'ai souhaité avoir une compensation au niveau de l'art. Donc j'ai commencé par des... estampes, gravures contemporaines, et je me suis intéressé aux icônes, et puis des icônes de fil en aiguille, je me suis intéressé à la peinture essentiellement française du XVIIe siècle, la peinture classique, qui à l'époque, on est dans les années 70, était encore accessible à des bourses très modestes comme la mienne.
Ouais. Et donc, parallèlement à votre activité scientifique, vous avez toujours eu cette passion artistique qui est vraiment là, conjointe au fond.
Pour moi, c'est essentiel, je dirais, à ma vie scientifique, indirectement, si j'ose dire, parce que ça me rééquilibre. Il y a un sentiment d'apaisement, de bonheur, d'être environné de tableaux, d'œuvres d'art, et aussi, évidemment, joie suprême de pouvoir, éventuellement, à un moment ou à l'autre, en acquérir une nouvelle.
Ouais. Donc il y a toujours ça, au fond, la tête du collectionneur.
C'est une tension, je dirais, à la fois complémentaire et extrêmement différente de celle de la recherche scientifique, qui est parfois très éprouvante sur le plan des émotions. Et l'œuvre d'art m'apporte un apaisement intérieur et un enrichissement. C'est une chose très particulière.
Donc vous êtes toujours dans cette tension que
Absolument,
vous décrivez, et
oui.
dont on va parler d'ailleurs avec Michel Lejoyeux, et toujours collectionneur, alors c'est ça.
Entendu.
Vous êtes en quête
oui.
permanente.
Oui, et c'est particulièrement difficile parce que les œuvres du XVIIe siècle sont rares, et lorsqu'elles sont bien identifiées, leur prix est tout à fait au-delà de mes propres moyens. Donc il faut arriver à concilier dans la collection de tableaux anciens à la fois, je dirais, la qualité de l'œuvre et puis les moyens dont on dispose.
Ouais.
Et cette mise en relation est toujours très problématique. Donc il y a un aspect chance aussi qui intervient, d'où le côté « je », bien entendu,
Absolument.
Qui fait aussi partie du... je dirais des activités du collectionneur. Mais l'essentiel est plutôt de fréquenter les œuvres d'art de l'État. Et ça, je pense que c'est pas propre au collectionneur, mais le collectionneur a quand même la possibilité de s'approprier ces œuvres, de les avoir autour de soi et de vivre avec. Et pour la peinture du XVIIe siècle, c'est particulièrement important parce que c'est une peinture de personnages, de compositions. Poussin est l'exemple, Philippe de Champaigne, Simon Vouet. Et on y retrouve des sentiments, des émotions.
Donc il y a une immersion privilégiée, une relation en tout cas avec ses œuvres et ses personnages.
Une empathie.
Ouais.
avec la manière d'abord dont les choses sont présentées, enfin la figuration elle-même, le style et aussi ce que cela représente. Parce que c'est toujours, c'est un peu la peinture des passions. C'est les passions de l'âme, comme disait Descartes, en quelque sorte. Et cet aspect-là aussi, pour moi, est très important, parce qu'il y a à la fois cette harmonie de la raison et des émotions qui...
Et ça fait écho à votre propre passion, j'imagine, aussi, dans ce travail.
Et c'est exactement ça, c'est que je m'identifie un petit peu à ce qui se passe sur les tableaux.
Alors Jean-Pierre Changeux, puisque vous êtes un explorateur du cerveau, ce qui va être intéressant de voir aussi avec vous, c'est de savoir si vous avez pu appliquer vos théories, vos méthodes expérimentales à votre passion de collectionneur. Comment est-ce que vous avez retourné les choses pour essayer de voir ce qui se passe dans votre tête? Je vois Michel Lejoyeux qui prend plein de notes, parce qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Jean-Pierre Changeux, qui brosse déjà, au fond, un bon portrait du collectionneur.
Bien sûr, je ne me permettrai pas de faire comme ça, en direct, une sorte de psychopathologie de l'illustre collectionneur que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup et qui est en face de moi. Mais si on essaie de comprendre un tout petit peu cette relation à l'objet, il y a deux, trois manières de se faire plaisir. Il y a le plaisir de l'accumulation d'objets pour rien. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'accumulation en psychologie. C'est-à-dire, au fond, je suis envahi d'objets qui ne m'intéressent pas. Ça, c'est le premier temps. Le collectionneur aime bien sûr accumuler des objets, mais en plus, il aime investir certains objets. Il y a ce qu'on dit bien et ce qu'on voit dans la collection, quelques éléments qui en sont tout à fait caractéristiques, c'est-à-dire la série. Par définition, on n'est pas collectionneur d'un seul objet. Et puis aussi la difficulté. On ne collectionne pas ce qui est tout à fait accessible. On ne collectionne pas des exemplaires d'un journal dont on peut en acheter une dizaine en kiosque. Donc au fond, cette difficulté, cette tension sont des déterminants du désir du collectionneur.
Et alors ces collections prennent racine dans l'enfance très souvent. Au fond, elles prennent racine et elles se terminent aussi dans l'enfance, dans la plupart des cas en tout cas.
Dans l'enfance ou plus tard que ça, c'est j'allais dire le plaisir du collectionneur, c'est la résonance entre une première expérience de plaisir forte. Il y a toujours une histoire qui commence une collection.
C'était les insectes, donc pour Jean-Pierre Changeux, par exemple.
Oui,
c'était les insectes. Enfin, il y a toujours, vous savez, Freud disait, le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. On pourrait presque dire que les objets qui nous plaisent, les objets que nous collectionnons, sont une sorte de voie royale d'accès à nos émotions, à nos passions, vous le dites très bien, Monsieur Changeux, à nos désirs. Donc, au fond, ces objets ont un sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un sens passé, c'est-à-dire qu'ils s'est passé quelque chose. Ils ont aussi un sens actuel. C'est un déplacement de notre envie aujourd'hui. Et avant ça, il y a une très belle histoire. Il y a aussi un autre grand collectionneur qui était Truman Capote. Truman Capote, il lui avait une belle histoire. Il était jeune écrivain américain venant à Paris et rencontrant la dame la plus célèbre de cette époque, qui était Colette. Et très impressionné, il va voir Colette. Colette lui offre un sulfure. Et Truman Capote le raconte très bien dans une de ses nouvelles. Ça a été un moment formidable. Parce que Colette, lui faisant un cadeau, c'était une manière de lui dire « Tu es un écrivain, tu fais partie de ce monde que tu admires tellement. » Et la suite, vous me voyez venir, c'est que Truman Capote a continué à collectionner ses sulfures, à la fois parce qu'il les a investis, et aussi dans l'envie, dans l'illusion peut-être de refaire vivre ce passé.
Oui. Jean-Pierre Changeux, est-ce qu'il y a beaucoup d'études en neurobiologie sur les collectionneurs? Vous êtes un des rares à vous y intéresser.
Je ne pense pas qu'on puisse trouver beaucoup d'études sur le collectionneur proprement dit, mais sur certains éléments de base qui sont présents dans le cerveau du collectionneur, certainement. Il y a, si vous voulez, d'abord l'exploration et la reconnaissance de l'objet, donc pour les collections d'objets visuels. Donc il y a tout le système visuel lui-même, la perception visuelle. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui comporte la relation entre l'image et le sens. Donc cet aspect-là aussi est évidemment très, très important. L'accès à la conscience et le rôle du non-conscient. Et finalement, et c'est évidemment ça le plus important, la récompense. C'est les systèmes de récompense dans notre cerveau qui jouent un rôle absolument fondamental dans notre activité quotidienne comme dans celle du collectionneur.
Alors justement, puisqu'on est dans les systèmes, dans les circuits de la récompense, il y a Juanito Banana sur Twitter, c'est son nom, qui nous dit ceci et qui vous pose cette question. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la collection et l'addiction? Et est-ce que ce sont les mêmes zones cérébrales qui sont activées? Alors, qui répond le premier ? Michel Lejoyeux ?
Alors, sur les zones cérébrales, je vais laisser M. Changeux répondre.
L'addiction et la collection.
Moi, ça m'énerve un peu, je vais vous dire. Moi, ça m'énerve un peu que tout plaisir qu'on a, que toute satisfaction qu'on a dans la vie soit immédiatement considérée au nom d'une sorte d'orthopraxie comme une addiction. C'est clair que certains collectionneurs sont difficiles pour leur entourage. Oui. Que le désir de collection prend un peu la part sur d'autres désirs familiaux, etc. Mais aller trouver à chaque fois que quelque chose nous fait plaisir, une addiction dans un pays où quand même, vous avez parlé gentiment de la Société française d'alcoolologie, où on continue à consommer de l'alcool, du tabac en quantité tout à fait irraisonnable, c'est une manière de dire tout est un peu addiction et je trouve que c'est une manière de diluer le message de santé publique concernant l'addiction. Que je sache, la collection ne donne pas la cirrhose du foie, le cancer du poumon.
Bon, alors Jean-Pierre Changeux, maintenant partons avec vous dans les circuits de la récompense, s'il vous plaît.
Eh bien, ce sont des systèmes qui naissent dans la partie basale de notre encéphale, dans le tronc cérébral, et qui sont essentiellement constitués de neurones qui contiennent un neurotransmetteur bien connu qui est la dopamine. C'est des systèmes que l'on dit ascendants, c'est-à-dire qui montent de la base du cerveau vers les parties corticales, la surface de notre encéphale, et qui donc qui investissent, sont susceptibles d'investir l'ensemble de notre cerveau et d'intervenir dans toutes nos activités dites de connaissance. Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous trouvez un beau tableau là, du 17e, par exemple ? Qu'est-ce qui se passe avec votre dopamine, tout d'un coup ?
Évidemment, il y a la dopamine, enfin, d'autres neurotransmetteurs, là, je simplifie un peu, et je dirais même excessivement, mais on voit les choses comme une espèce d'invasion dans un bain de neurotransmetteurs de l'ensemble de notre cerveau. Bon, c'est une vision extrêmement simplificatrice, mais simplement pour dire que ces neurotransmetteurs jouent un rôle critique et qu'on peut aussi imaginer des régulations qui interviennent dans la libération de ces neurotransmetteurs. Et c'est là où les théories sur l'addiction peuvent intervenir, si vous voulez, quand il y a par exemple un usage répété d'un agent pharmacologique qu'on peut appeler une drogue, le système nerveux s'adapte à cet usage et finalement la drogue devient nécessaire en quelque sorte pour que le système reste en équilibre. Donc ça a aussi introduit l'idée que dans les systèmes de récompense on puisse trouver une pharmacologie lorsqu'il y a des situations qui deviennent pathologiques.
Michel Lejoyeux.
Oui, quand vous voyez ce tableau, vous appliquez presque sans le vouloir trois grands principes d'une psychologie très très positive, très très réconfortante. La première quand même, parce que pour que vous ayez vraiment du plaisir, il faut pas que vous le voyez, il faut aussi que vous l'achetiez à un moment que vous l'accueillez. Vous faites un cadeau à vous-même. Moi, je propose beaucoup ça en thérapie. Osez vous faire des cadeaux. Vous voyez, dans une époque où on n'ose pas exprimer ses envies, ses désirs. La deuxième chose, au fond, ce qui fait qu'on est angoissé ou ce qui fait qu'on est souvent, c'est qu'on ne sait pas trop où on est. Vous réalisez une expérience qu'on pourrait dire, s'il fallait utiliser ce mot, de mindfulness, de concentration sur l'instant. Au moment où vous êtes face à votre tableau, vous y êtes totalement. Vous êtes totalement fixé sur vos sensations présentes. Et puis, alors, il n'y a peut-être pas des voies cérébrales de la culpabilité, encore que on s'interroge beaucoup là-dessus, mais vous mettez un petit coup à votre culpabilité en vous disant, certes, ce tableau, j'en ai déjà plein, il est un peu cher, mais je vais m'autoriser l'expression de quelque chose qui me fait plaisir. Donc, vous voyez,
c'est très contradictoire tout ça quand même.
Oui,
hein.
C'est très contradictoire, mais tout va quand même dans le même sens, dans le sens au fond d'accepter un moment positif, de le déguster, de le ressentir et d'en avoir en plus une trace après qui va être l'objet acheté en collection. Donc c'est très bien. Quoi. Continuez vos collections, monsieur Changeux.
De toute façon, il n'est pas prêt de s'arrêter apparemment.
Dans la limite de mes moyens. Je pense que c'est pas certainement le sentiment de culpabilité, mais surtout le dire qu'il faut introduire une limite. C'est la notion de limite qui est évidemment importante dans le cadre de la collection. Et c'est là ce qui fait la différence entre, je dirais, le collectionneur qui se contrôle lui-même et qui contrôle ses acquisitions, ce qu'il ne contrôle pas. Et ça, il y a par exemple une addiction au jeu qui est, peut devenir pathologique, où le joueur non seulement vide son compte en banque, mais dépasse ce qui est possible comme dette et se trouve d'emblée en dehors du système légal. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle une perte de contrôle. Il y a une neuroscience de ça.
Vous envoyez beaucoup, Michel Joyeux, justement, des collectionneurs qui perdent le contrôle à un moment et qui sont vraiment dans quelque chose qui ressemble à une pathologie quasiment.
Alors, comme motif de consultation principale, j'ai jamais vu quelqu'un me demander un rendez-vous, aller demander une consultation dans un hôpital parce qu'il est collectionneur, même des...
Parce qu'il en souffre.
Non, mais par contre, ce que je vois beaucoup, c'est que nous avons tous nos petites marottes, nos petites collections. Donc, ce n'est pas le motif principal d'accès à la psychologie. Mais moi, je pose cette question-là. Et là encore, ce que l'on collectionne, ce qui nous fait vraiment envie, est un révélateur.
Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Il n'y a pas de pathologie du tout de la collectionnite aiguë, ça n'existe pas.
En tout cas, il n'y a pas de consultation spécialisée, on peut bien sûr tout envisager sur le mode de la maladie mentale, mais moi je serais tenté d'alléger le sujet quand même et de ne pas faire du collectionneur.
Bon, vous le défendez, hein, client, mec et ongle.
Un client potentiel de la psychiatrie. Hein, voyez, donc
si vous avez un problème avec vos collections, n'allez pas voir Michel Lejoyeux parce que ce n'est pas lui qui va vous aider.
Il vous incitera à continuer à vous faire plaisir.
Allez, on revient vers vous dans un instant. Franceinter.fr, beaucoup de messages pour vous également sur Twitter.
Sur un lit déformé, se mirent leurs enchères ondulées dans un ruisseau irrégulier à la jeunesse et sa beauté. Voici ensuite l'enfant aîné, mesure de la prospérité. La vie est une fête. Une cicatrice sur le genou laisse un seul arrière-goût d'une somptueuse enfance. Bonjour l'adolescence. Est-ce possible de porter seule cette âme tourmentée? La vie est une fête. Enfin le baccalauréat, on court les rues trempées de joie. On crie allô la liberté, ensuite le film nous est coupé. Tu poses un premier carton dans ton nouvel appartement. La vie est une fête. Mon Dieu, comme tu es belle, prise par cette passion nouvelle. Tu rayonnes bizarrement depuis votre dévouement. Deux planètes égarées, tellement loin mais retrouvées. La vie est une fête.
Irina Björklund avec La vie est une fête.
Bonjour, je peux vous aider? Excusez-moi, j'ai trouvé cet album dans la rue et j'ai...
Ah bah ça alors, bah c'est Nino qui va être content.
Et Nino, il est là?
Non, jamais le mercredi, il travaille à la foire du trône.
Et ça fait longtemps qu'il fait cette collection?
Oh, depuis qu'il est ici, il y a un an. C'est moi qui l'ai fait entrer. Avant, il collectionnait les empreintes de pas dans le ciment. Oui, il était veilleur de nuit. Et du coup, il passait ses journées à photographier tous les endroits où quelqu'un a marché par accident sur du ciment encore frais. Ah, c'est un drôle d'oiseau, hein. Quand je l'ai rencontré, il faisait le Père Noël à la Samaritaine. Et puis d'autres trucs, du genre des rires à un moment. Dès qu'il entendait un rire un peu rigolo, paf, il l'enregistrait.
Voilà, collectionneur de rires dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Nos invités, le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux et le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux pour parler donc de collection. Ce sera à l'occasion donc de ce festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau les 30, 31 mai, 1er juin. Alors, vous serez présent, vous, Jean-Pierre Changeux, le samedi.
Oui, 14 mai. À l'école des mines.
Voilà, l'école des mines donc de Fontainebleau pour parler du cerveau du collectionneur.
Oui,
hein, exactement.
En débattre, disons.
Il y a beaucoup de questions et de témoignages. Louison nous dit ceci. J'ai longtemps collectionné des tickets de métro dans mon adolescence et donc je ne suis pas d'accord avec les propos de Michel Lejoyeux qui disait qu'on avait besoin de collectionner des choses très très rares. J'aimais collectionner et tasser dans une boîte mes tickets qui en plus ont changé de couleur plusieurs fois depuis mon enfance. J'aimais aussi amasser les clés usées. Voilà pour ce témoignage, Michel Lejoyeux.
Bien sûr, mais peut-être que, effectivement, donc, je suis content que les exemples pratiques me donnent tort. Je trouve toujours très bien quand on prend en défaut les définitions classiques. Mais peut-être que là, on est quand même plus, pardon, d'essayer de défendre mon idée dans l'envie d'accumuler que dans véritablement une collection. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Louison cherche encore des tickets de cette époque-là.
Ouais. En tout cas, c'est très amusant de demander à ses amis ou à ses collègues de travail qu'ils ont collectionné dans leur enfance, par exemple. Alors, je vais un peu cafeter, mais il y a Anne-Cécile Perrin qui travaille sur l'émission et qui, elle, a collectionné les pelures de gomme, les mines de crayons et les rouleaux de papier toilette dans son enfance. C'est quand même extraordinaire, non, vous ne trouvez pas?
C'est
assez original comme collection. Jean-Pierre Changeux, donc c'était les insectes, vous, au départ, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, absolument.
Ouais. Et donc après, il y en a eu tout le temps.
Oui, j'ai toujours eu une activité de collectionneur en parallèle, tout à fait contrôlée, pas pathologique justement,
ouais.
Comme ça a été dit tout à l'heure, mais qui, encore une fois, m'apportait un enrichissement, je dirais, intellectuel, en ce sens que les insectes, j'essayais de découvrir la nature, d'en évaluer sa diversité, et aussi associer au plaisir des formes. C'est-à-dire
ouais.
que les mouches, ça paraît évidemment un ensemble d'espèces animales peu agréables et peu intéressantes. En fait, il y en a sur les fleurs, il y en a dans les champs, qui sont très singulières par leur forme et leur couleur. Et il y avait, je pense, l'intérêt pour la forme, la diversité,
oui.
et je dis aussi la compréhension du monde. Pour moi, l'activité du collectionneur est une activité essentiellement cognitive. C'est pas une activité tellement accumulatrice. C'est fait que effectivement, il faut rassembler, regrouper. Mais c'est plutôt cet aspect exploratoire qui accompagne l'activité du collectionneur qui, moi, m'a toujours fasciné.
Michel Lejoyeux, sur Twitter, Larry nous dit ceci. Est-ce qu'un collectionneur n'a pas un trouble lié au besoin de propriété, précisément, sur ce besoin d'acquérir sans cesse les objets?
Il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la propriété, puisque le collectionneur ne s'intéresse qu'à ses propres objets. Vous savez, si on reste sur les métaphores littéraires, il a besoin de s'environner. Vous vous souvenez de cette pièce de Tennessee Williams, La ménagerie de verre, avec l'héroïne qui avait des petits personnages en verre avec lesquels elle jouait. Au fond, c'est un peu ça, la métaphore de la collection. C'est se créer un petit univers qu'on possède, qu'on maîtrise, qu'on va pouvoir enrichir petit à petit. Donc, c'est cette possession miniature ou quelquefois énorme dans d'autres collections qui, au fond, nous donne l'illusion et quelquefois la réalité de maîtriser l'immaîtrisable.
Gustave nous dit dans son témoignage, la thésaurisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut-elle être associée à une peur du manque? Je pense à certaines générations qui ont connu la guerre et qui, par le manque, donc, semblent avoir un rapport particulier à la possession matérielle.
Je pense qu'il y a à la fois posséder et aussi faire partager. Et ça, c'est peut-être une certaine catégorie de collectionneurs dont je suis. J'aime faire des découvertes, des tableaux inattendus, les
on
rassembler.
On peut voir votre collection
couper.
D'ailleurs, à mots. Hein.
Oui, bien entendu.
Elle se trouve
aussi,
là, hein, Jean-Pierre Changeux.
Et puis aussi la donner. Je pense que beaucoup de collectionneurs sont à l'origine des grands musées français. Ils ont participé très directement. Et aux États-Unis, le patrimoine muséal se constitue à partir de donations qui sont le plus fréquemment de collectionneurs. Donc je crois qu'il y a posséder et aussi donner.
Vous voyez bien que les objets que vous avez ont un double sens. Ils ont le sens effectivement de l'intérêt historique, artistique qu'ils ont, et puis ils ont aussi, pardonnez-moi de le dire, le sens du fait qu'ils tournent autour de vous et du fait qu'ils réalisent une sorte de portrait chinois très très indiscret finalement de toutes vos émotions. Donc la collection est intéressante par les objets et aussi par ce qu'elle révèle. J'allais presque dire malgré lui, du collectionneur.
Oui, mais enfin, il se trouve que bien souvent, la personnalité du collectionneur disparaît devant l'œuvre elle-même, quand il s'agit d'une œuvre d'art. Et à cet égard, vous pouvez voir au Louvre, en visitant, qu'il y a certains secteurs qui sont réservés à une collection particulière. Je veux dire que c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble des collections. Parce qu'à ce moment-là, les œuvres peuvent être confrontées les unes avec les autres. Et il s'agit, en quelque sorte, pour moi, d'une espèce de grande collection où se trouvent accumulés des chefs-d'œuvre et où on peut les fréquenter librement et aussi les partager avec les autres. Donc pour moi, l'aspect propriété est important, mais peut-être comme une étape transitoire, vous voyez, dans mon expérience de collectionneur.
Michel Lejoyeux, est-ce que le collectionneur, finalement, est un éternel insatisfait? On le sentait un petit peu dans les propos de Jean-Pierre Changeux tout à l'heure, avec toujours cette impression de ne pas posséder l'objet dont il rêve, en tout cas d'être toujours en quête de le posséder. Hein.
En tout cas, l'insatisfaction éventuelle ou éternelle est chez lui un moteur.
Hein,
c'est pas un insatisfait dépressif, c'est un insatisfait plein d'énergie.
Qui
travaille sur le désir et sur justement ces techniques de remotivation. Une insatisfaction comme ça, moi je pense qu'elle est tout à fait souhaitable et qu'elle est à cultiver. Finalement, il y aurait rien de plus désespérant pour un collectionneur qu'un moment où on lui dirait ça y est, ta collection est terminée, tu es totalement satisfait. Ça, ce serait le vrai désespoir du collectionneur.
Ouais. À quel moment d'ailleurs on décide d'arrêter une collection? Ça vous est arrivé plusieurs fois, Jean-Pierre Changeux? C'est vraiment
non,
quand il y a une
évolué,
sorte...
Pour moi, j'ai toujours...
C'est toujours une collection.
J'ai toujours essayé de développer, oui. Et puis peut-être qu'elle devient plus spécialisée, en ce sens qu'il y a certains tableaux que l'on connaît moins. Parce que pour moi, ça fait partie, encore une fois, d'une activité exploratoire, qui est aussi celle de mon activité scientifique. Mais c'est une sorte de contrepartie esthétique de l'activité scientifique. Et on peut la réorienter, son activité de collectionneur.
Ouais.
Par exemple, vers le XVIe siècle, le XVIIe siècle, devant extrêmement difficile à acquérir, on peut essayer de voir à la marge si d'autres moments de l'histoire de l'art nous ont apporté des œuvres qui peuvent être acquises, bon, et qui font partie des choses qui sont présentées dans les ventes publiques. Mais
Michel Lejoyeux,
vous allez me trouver très défenseur des collectionneurs, mais
on a bien compris.
Oui, non, c'est très bien, c'est magnifique.
Mais je pense qu'il y a certains objets dont on a besoin pour aller bien. Et moi il m'arrive de dire à certaines personnes qui se croient démotivées, qui croient ne plus avoir envie de rien, que par exemple les livres, la musique, on a besoin d'être entouré d'une collection, au moins à minima, de livres qui font donner du sens à la vie, de musique. Donc, il y a aussi une pathologie, j'allais dire, de la non-collection, du refus de l'objet, du désinvestissement de l'objet. Il y a aujourd'hui des techniques de psychologie très au point, ce qu'on appelle de bibliothérapie, qui vous font trouver, justement, des collections de livres, vous faites même des ordonnances de livres qui vont être capables de vous remotiver.
Oui.
Donc, bien sûr, il y a des collections envahissantes, gênantes, ruineuses, mais n'oublions pas qu'être entouré d'un certain nombre d'objets qui donnent du sens à votre vie, que vous avez choisi et qui vous rassurent quant à ce que vous avez été, c'est un déterminant.
Ouais. Alors Jean-Pierre Changeux, sur le cerveau des collectionneurs, vous parlez de connoisseurship. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et est-ce que le fait d'être collectionneur, ça développe des capacités cognitives particulières chez les personnes?
Je pense que oui. Je pense que, de toute manière, l'activité de collection que l'on trouve déjà chez l'enfant est extrêmement intéressante comme exploration du monde en général et comme désir de connaissance et d'acquisition de connaissances. Et le connaisseurship, c'est une acquisition spécialisée de connaissance des tableaux. Parce que
on développe certaines capacités.
Toute l'idée est d'essayer d'acquérir un tableau qui soit d'une qualité, d'une authenticité aussi incontestable que possible. Et cela se passe de la manière suivante. On se trouve en présence de quantité d'œuvres chaque jour qui sont sur les murs, par exemple, de l'hôtel de Rouault ou d'autres salles de vente,
ouais.
Et qui sont plus ou moins bien attribuées, enfin souvent très bien d'ailleurs. L'idée, c'est d'essayer de reconnaître dans cet ensemble l'œuvre qui est une œuvre que vous souhaitez faire entrer dans votre collection. Donc il faut non seulement la percevoir, mais la comprendre. Et dans cette compréhension, il y a bien entendu l'identification de l'authenticité et aussi de l'artiste lui-même.
Et vous parlez d'une neuroesthétique autour de cette idée aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'il est intéressant d'essayer de comprendre les mécanismes cognitifs qui interviennent dans notre système nerveux central et qui permettent, au fond, de confronter l'œuvre que l'on a en face de soi avec celle que l'on a accumulée dans notre mémoire lorsqu'on a justement acquis ce connaisseurship dans nos musées et aussi souvent en présence d'un tuteur qui vous a formé. Parce que je pense que dans le connaisseurship, il y a une notion très importante, c'est la fréquentation de personnes qui connaissent déjà et qui transmettent leur expérience.
Michel Lejoyeux, pour terminer.
Un tout petit mot, on est même en train de se demander si au fond, quand on a quelque chose qui nous mobilise très fort, comme un objet de collection comme ça, vous n'avez pas une sorte de réactivation d'une voix intérieure, vous voyez, comme si vos pensées prenaient une tonalité de plus en plus forte, comme si au fond ces émotions s'exprimaient d'une manière très, très, très particulière.
Là, je ne pense pas que ce soit tellement l'émotion. Je pense qu'elle joue un rôle, évidemment, tout à fait critique, puisque vous avez reconnu l'œuvre déjà. Mais ce que vous voulez, c'est plus que ça. C'est-à-dire que le tableau devient objet de science, de connaissance et, je dirais, d'expertise, pour employer un terme qui est un petit peu galvaudé.
En tout cas, vous serez donc samedi 31 mai ou 30 mai, d'ailleurs, j'ai un petit doute. On va regarder sur le calendrier. Voilà, ce sera samedi prochain, à l'occasion du Festival de l'Histoire de l'Art, donc à Fontainebleau. Il y a tout le programme sur festivaldelhistoiredelart.com pour vous rencontrer Jean-Pierre Changeux et pour parler donc du cerveau des collectionneurs. Michel Lejoyeux, le secret de nos comportements, c'est chez Plomb. Oui. Vous abordez cette question du collectionneur. Et puis, je signale également votre dernier ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Réveiller vos désirs ».
Oui, et qui parle aussi beaucoup justement de ces désirs d'objets et de l'utilisation pour se remotiver de, par exemple, des livres, de tout ce qui peut être un peu de surmonter des difficultés, des manques.
Vos envies et vos rêves à votre portée, c'est le sous-titre de ce livre, donc paru également chez Plomb. Vous restez avec nous, Michel Lejoyeux et Jean-Pierre Changeux, vous pourrez commenter ce qui va se passer dans le hashtag L'Attaque.
Ketchup on a soul. sweet darling shame. We're no default. Need for understanding in time will pass on. Be treated in pure loving in time will pass on. One time to lose, one time to win. As long as we're willing, one time to love, one time to leave. As long as we believe.
Mélanie de Biasio avec Sweet Darling Pain sur France Inter.
Hashtag. Hashtag. L'attaque.
Voilà, Jean-Pierre Changeux, Michel Lejoyeux, vous êtes resté avec nous et je vous présente Sébastien Boller de Cerveau et Psycho, Hélène Chevalier pour France Inter et Axel Villard pour le hashtag L'Attaque. Bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour.
On va commencer avec les infos du jour. Sébastien, est-ce que pardonner, c'est oublier? C'est une question dans l'actu science, hein?
Ben, oui, apparemment, ça aiderait à oublier. C'est ce qui ressort d'études menées à l'université de St. Andrews en Écosse. Alors, ce sont des expériences où des sujets devaient lire des petites historiettes et se mettre à la place d'une personne offensée. Mmh. Peu après, la personne avait la possibilité de pardonner à son agresseur qui en faisait la demande. Et on a alors observé, grâce à des tests de mémoire très raffinés, que les personnes ayant pardonné avaient aussi effacé de leur mémoire les éléments les plus douloureux de l'épisode. Mmh. Pardonner avait donc pour elles un effet positif, en ce sens que ça leur permettait de s'alléger, de passer à autre chose, de ne pas traîner un boulet derrière elles. Le pardon bénéficierait donc autant à la victime qu'à l'offenseur. Le seul problème, c'est que le pardon ne se décrète pas. Il faut que l'offenseur exprime des regrets. Et pendant ce temps-là, eh bien, on n'oublie pas.
Ouais, pardonner, c'est positif, Michel Lejoyeux. Alors là, vous pouvez réagir là-dessus.
Hein. Bien sûr. Et c'est positif et c'est un petit effort quand même. Hein. C'est-à-dire que ça, ça nécessite un travail, alors que ressasser des souvenirs désagréables, ça c'est très naturel.
Axel, mais qui aura le droit de conduire les voitures autonomes? C'est une question que vous posez.
C'est une question auquel moi je serais tenté de répondre tout le monde si la voiture est fiable et totalement autonome. La question a été posée par le site de robotique éthique RoboHub et voici la réponse des internautes. Les enfants au volant, c'est non à 52%. Les personnes âgées sans permis, c'est oui à 70%. Et les aveugles, c'est oui à 60%. Alors le futur risque d'être rigolo à regarder, surtout quand on voit le dernier prototype testé en ce moment par Google, une voiture sans volant ni pédale, destinée aux personnes à mobilité réduite. Mmh. La notion de chauffeur va certainement être à revoir dans le futur.
Ouais. Hélène, vous nous parlez, vous, de robots capables de distinguer le bien du mal.
Oui, aux États-Unis, le Bureau national de la recherche du département de la Marine vient d'accorder 7,5 millions de dollars de subventions à 5 universités américaines afin qu'elles trouvent un moyen d'intégrer des notions de morale à leurs robots soldats et du coup être capables de faire des choix comme par exemple un robot chargé de livrer des fournitures d'urgence à un hôpital où des vies sont menacées. Doit-il abandonner sa mission pour sauver un soldat gravement blessé qui se trouve sur sa route? Certains chercheurs pensent que les robots pourraient être meilleurs que les hommes pour agir de façon conforme à l'éthique, notamment parce qu'ils sont capables de calculer plus rapidement les options qui s'offrent à eux.
Jean-Pierre Changeux, je ne peux pas résister évidemment à l'envie de vous demander ce que vous pensez de la morale chez les robots.
Oui,
Ça vous trouble
Très troublant et je dirais même peut-être très dangereux. En ce sens que la morale que l'on imposait aux robots peut être fondée sur des idéologies définies sans l'ennemi ou l'ami, etc. Et à cet égard, j'ai... Ouais. Demande à nuancer énormément bon. Ce qui vient d'être
dit. On verra peut-être un jour dans le cerveau des robots, qui sait, on les passera à l'IRM aussi. Hein. Les chroniques du jour, Sébastien, vous allez nous parler des changements dans le cerveau des pères lorsqu'ils s'occupent d'un enfant. Et là aussi, ça va intéresser Jean-Pierre Changeux, j'en suis sûr, et Michel Lejoyeux.
Et souvenez-vous tous de ce qui arrive à un homme lorsqu'il doit subitement s'occuper d'un bébé et que rien ne l'y a préparé.
Nous vendons toutes les marques, tous les laits sont bons.
Donnez-moi celui-là, là.
Alors celui-ci, c'est un lait maternisé.
C'est pas bien, ça?
Ah, si, c'est très bien. Vous voulez premier âge ou deuxième âge?
Ah bon, il y a deux âges.
L'enfant à quel âge?
Ben, c'est un bébé. Un petit bébé.
Vous avez peut-être reconnu un extrait du film « Trois hommes et un couffin », c'était en 1985, et on voyait ce qui se jouait ici, c'était le bouleversement mental complet, le tremblement de terre pour l'homme qui voit débouler cette chose qu'il n'a pas portée en son sein. Alors heureusement, ça change. Peu à peu dans le film, ces hommes vont se sentir concernés, ils vont se préoccuper de cet enfant, le dorloter, être sensible à ses pleurs. Et si on regardait dans leur tête à ce moment-là, on verrait que leur cerveau s'adapte et qu'il se configure presque comme celui d'une maman.
Bon, comment on a observé cela, Sébastien ?
Ce sont des neuroscientifiques de l'université de Tel Aviv qui l'ont montré en étudiant le cerveau de 89 parents, hommes et femmes, en couple hétérosexuel ou en situation d'homoparentalité. Et ils ont constaté que le fait de s'occuper de l'enfant sollicite chez la mère un système neuronal de type émotionnel qui comporte notamment une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale, alors que chez le père se met progressivement en place un système cortical un petit peu différent. C'est la surface du cerveau, le cortex, qui s'active et non les zones profondes, notamment une zone qu'on appelle le sillon temporal supérieur, qui par des efforts de pensée permet notamment de se mettre à la place de l'autre. Donc, pour schématiser une approche émotionnelle pour la maman et une approche plus cognitive et détournée pour le papa.
Mais ça se passe toujours comme ça ou pas ?
Eh bien, pas du tout, parce que chez les pères qu'on dit primo-éducateurs, ceux qui ont le premier lien de l'enfant, que ce soit par la répartition des rôles, ça arrive dans le couple, ou en cas d'adoption par des couples homosexuels, on voit en fait ces deux systèmes s'activer de manière conjointe. Vous avez le système émotionnel amygdalien, comme chez la maman, chez ces papas-là, et le système cognitif sillon temporal supérieur, comme chez les pères qui n'ont pas le premier lien avec l'enfant. Donc, trois hommes et un couffin, c'était un tournant parce que ça montrait une situation sociale bien particulière à l'époque, un moment clé où on commençait à comprendre que les hommes pouvaient s'occuper des enfants tout seuls comme des grands, même si ça prenait du temps de mettre en action leur système émotionnel et leur système cognitif. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un père peut être une vraie mère poule. Et ça plaît d'ailleurs beaucoup aux femmes, paraît-il. Figurez-vous qu'il y a des expériences qui voient le jour, où on a montré que ça peut être utilisé comme méthode de séduction, d'arriver avec des enfants dont on s'occupe beaucoup. Donc, changez votre cerveau, faites pousser vos neurones maternels, tu seras alors un homme, mon fils.
Voilà, donc dans trois hommes et couffins, on voyait presque le cerveau du père se modifier, au fond, devant la caméra de Colline Serrault.
Ça peut encourager les recherches.
Jean-Pierre Changeux, le cerveau du père, le cerveau de la mère, vous en pensez quoi ?
Ce que je pense, c'est que il y a une capacité qu'on a toujours intérêt à avoir en tête, c'est l'apprentissage. C'est que le cerveau n'est pas une structure fixe dans son organisation et dans ses fonctions, mais est susceptible d'être modulé par l'environnement. Et là, nous avons en quelque sorte une situation intéressante où il y a la capacité cognitive et la capacité émotionnelle. Au fond, c'est la proportion entre ces deux systèmes qui est concernée dans le schéma que vous proposez. Et donc, on peut modifier cette relation par l'expérience, par l'apprentissage. Et je crois que la leçon à tirer, c'est qu'il est toujours bon de continuer à apprendre.
Bon, tout ça, c'est la plasticité aussi
de notre cerveau. C'est ce que j'appelle la plasticité cérébrale aussi. Exactement, vous avez tout à fait raison.
Axel, une nouvelle attaque publiée hier contre Wikipédia et ses légendaires imprécisions.
Alors, c'est toujours les mêmes reproches qui sont faits à l'encyclopédie sociale, des erreurs, des imprécisions, des affirmations non confirmées. La publication dont je vais vous parler aujourd'hui est une étude statistique menée par des médecins américains, publiée la semaine dernière et reprise hier par le site de la BBC. Elle s'est intéressée aux 10 pages santé de Wikipédia les plus consultés aux USA, cancer du poumon, dépression, diabète, problèmes de dos, arthrose et j'en passe. Elle a comparé les affirmations inscrites sur ces pages à la littérature scientifique et la conclusion est assez dévastatrice pour l'encyclopédie. 9 des 10 pages ne seraient pas fiables au regard de la littérature scientifique, d'où le titre de l'article de la BBC. Faites confiance à votre médecin plutôt qu'à Wikipédia, disent les scientifiques.
Bon, ça paraît plutôt sain comme conseil, non, a priori ?
Oui, c'est vrai, mais dans les faits, l'usage, il me semble, en train de changer. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais il me semble que le coup de fil à un toubib n'est plus la première chose qu'on fait quand on a un petit problème. Le premier réflexe est en train de devenir la recherche sur Internet. L'INSERM avait fait un petit sondage l'année dernière sur 5000 Français. 70% déclarent faire des recherches santé sur le net au moins une fois par mois et 40% prennent la peine de vérifier les sources de ces informations. Il me semble que cette étude est un peu en train de contrer cette habitude que prennent de plus en plus les internautes.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Axel ?
Déjà, le fait qu'elle soit publiée par l'Association des ostéopathes américains. Ça, c'est un bon indice. Après, si on regarde un peu dans le détail du protocole statistique, l'étude grossit largement le trait. Pour chaque affirmation, un article en compte plus d'une centaine, 2 publications scientifiques sont choisies et comparées par des médecins sélectionnés au hasard, donc pas des spécialistes de l'article. Il suffit qu'une seule de ces affirmations soit jugée fausse pour que l'article soit décrété non fiable. Par exemple, la page sur le diabète compte, selon l'étude, 4 erreurs sur 75 affirmations vérifiées, ce qui rend l'article sur le diabète juste à 75%, mais faux au regard de la méthode appliquée.
Ouais, Michel Lejoyeux, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui se passe là, dans ces changements d'habitude, là aussi hein ?
Alors là, pour le coup, je crois que c'est une vraie irruption dans la psychologie moderne que cette utilisation, là, pour le coup, addictive de l'Internet. On décrit un nouveau terme aujourd'hui qui sont les cyberchondriaques, qui sont ces hypochondriaques qui, à force de regarder sur Internet, que l'information soit vraie ou pas, finalement, je serais tenté de dire que ça ne change rien. Toutes ces informations angoissantes, stressantes, et je suis bien d'accord avec la conclusion de l'article, sans donner d'avis sur Wikipédia, la médecine, c'est une confiance qui rejoint une conscience, c'est une relation interhumaine dans la vraie vie.
Oui, donc Axel, il faut inciter les médecins aussi à contribuer peut-être à Wikipédia.
Voilà, peut-être qu'on pourrait aller un petit peu à contre-courant et à dire que les médecins et les experts sont vraiment invités à s'exprimer sur ces plateformes sociales plutôt que d'aller toujours contre.
Oui, moi je pense que Wikipédia et d'autres articles qu'on trouve sur le web enrichissent les connaissances de chacun, si vous voulez. Donc je crois, à certains égards, elles sont extrêmement utiles. Il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est l'esprit critique. Voilà, il faut avoir une vision critique.
Oui, dans la masse d'informations, ce n'est pas toujours simple, hein, parce qu'il y a tellement de choses à décortiquer.
Je pense que c'est ce qu'il faudrait susciter chez celui qui consulte. Et évidemment, la relation avec le médecin est toujours indispensable. Enfin, ça, je crois que ça me paraît évident. Mais ça peut être intéressant de se faire aussi une opinion soi-même.
Hélène Chevalier, votre chronique s'intéresse à des SMS odorants. C'est le projet fou de David Edwards, cet Américain qui est installé à Paris, qui avait dévoilé à la mi-juin donc l'Ophone, un système qui permet de s'envoyer des messages olfactifs.
Oui, ça fait des années que les chercheurs planchent sur le fait de rendre odorant le cinéma, l'Internet, sans pour le moment trouver des systèmes très convaincants.
Ça marche pas bien pour l'instant.
Non, pas terrible. David Edwards, professeur à Harvard en génie biomédical, espère lui avoir trouvé la solution. Son système se compose de deux parties. D'un côté, une application gratuite à télécharger sur son smartphone. L'utilisateur prend une photo de son repas, par exemple. Et il y associe différentes odeurs, beurre, fèves de cacao amères, jasmin. Il y a le choix parmi 32 parfums pour le moment. Exemple ici avec un plat que j'ai imposé à David Edwards.
Saumon fumé, par exemple.
Donc, en fait, saumon fumé, on a un arôme fishy. Ouais. Suivant la préparation du saumon fumé, on a aussi oignon. On a aussi un arôme citron. Et c'est vrai que, donc, si vous me montrez une photo d'une banane, ma capacité, étant donné ce vocabulaire aromatique, à vous donner exactement l'arôme de la banane est limitée. Mais si vous me donnez banane, jus d'orange, croissant, là, c'est plus facile. Mais pour les expériences alimentaires générales, c'est plutôt pour un repas et pas exactement un objet comme la banane.
Voilà, c'est vraiment des odeurs qu'on mélange, plus qu'une seule odeur. Alors, une fois constitué, le message olfactif, baptisé O-Note, est ensuite envoyé à son destinataire. Et pour sentir donc notre saumon fumé, ce dernier doit être équipé d'un Nophone, un boîtier blanc avec deux cylindres posés dessus, qui diffuse donc le parfum via des petites émissions de vapeur qui disparaissent assez rapidement, je vous rassure.
Ah ouais.
Alors, je ne peux pas vous dire si le résultat est convaincant parce que je n'ai pas pu tester l'Ophone, mais de gros investisseurs de la Silicon Valley sont très intéressés par le projet. Pour son créateur, c'est vraiment une nouvelle forme de communication, une communication qui sera parfois, je pense, déstabilisante parce que quand on sait qu'on a la possibilité de mélanger 8 odeurs différentes en même temps, je ne suis pas sûre que le résultat soit toujours hyper agréable.
Ouais, et le champ d'application pourrait être beaucoup plus large que juste celui de ce message olfactif, c'est
oui,
ça
parce que David Edwards travaille déjà sur une miniaturisation de l'Ophone de façon à ce qu'il tienne dans une poche. Et puis, pourquoi pas l'utiliser en surfant sur un site d'e-commerce, en lisant un livre ou au cinéma. Et quand on sait à quel point notre affect également, nos souvenirs sont rattachés à des odeurs, il y a un énorme potentiel. Les premiers Ophone ne seront commercialisés qu'en 2015 pour 199 dollars, mais on peut déjà les tester. Il y a des démonstrations qui seront organisées au laboratoire de David Edwards à partir du 10
juin. Ça laisse perplexe, non, quand même, vous ne trouvez pas ?
Ce qui sera vraiment intéressant, c'est quand on pourra capturer une odeur, faire une olfographie.
Ah, mais il travaille dessus aussi, mais alors ça c'est beaucoup plus complexe. Quand même.
Bon, écoutez, à suivre en tout cas, mais c'est assez étonnant comme projet. Merci beaucoup Hélène Chevalier, Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho. qui est toujours dans les kiosques avec à la une, Sébastien, en ce moment.
Il fait de la musique, il fait thérapeutique sur des maladies importantes comme Parkinson, Alzheimer.
C'est passionnant. Merci Michel Lejoyeux, Jean-Pierre Changeux, merci beaucoup. Donc on se retrouve bientôt à Fontainebleau. Merci. Et puis Les Passions de l'âme, c'est chez Odile Jacob. On peut lire ce livre magnifique sur votre collection, peinture des 17e et 18e siècles de la collection Changeux, pour découvrir justement ces tableaux que vous avez collectionnés avec ce livre paru chez Odile Jacob.